下回下回。No hay vida más arrastrada que la del pobre correro, con la picana en la mano, picando al buey delantero. La, 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 la.
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur l'antenne d'Aligre FM pour votre émission Au cœur du tango, première émission radiophonique régulière en France sur la culture du tango, vous le savez, et c'est sur Aligre FM bien entendu. Alors une émission co-animée par Sylvain Berthaud
et par Nathalie Perrin.
Voilà, alors je remercie tout de suite Armand Gury à la technique qui assure la mise en onde de cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission qui nous tient particulièrement à cœur, j'ai l'impression qu'on se répète souvent tellement ça nous plaît ce qu'on fait. Mais bon, quand même, c'est spécial aujourd'hui. En effet, dès que nous avons commencé cette émission, nous vous avons dit qu'un de nos ouvrages de référence, on se souvient, c'est le livre de Michel Plisson, Tango du noir au blanc, qui a été publié chez Actes Sud en 2001.
Et oui, alors, Tango du noir au blanc, c'est, oui, vrai, oui. C'est un livre qui a marqué une étape dans la compréhension du phénomène du tango. À la même époque, d'ailleurs, il y avait des réflexions d'un musicien, Juan Carlos Cáceres, que nous écouterons également à plusieurs reprises dans cette émission.
Et nous avons voulu inviter Michel Plisson, c'était un souhait de notre part, pour parler de son livre, mais il nous a appris que sa santé ne lui permettait pas de se rendre dans notre studio. Il nous a écrit un très gentil mot avec des encouragements pour l'émission sur le tango. Alors nous avons tenu à préparer rapidement une émission consacrée à son travail et nous espérons qu'il nous écoute et on le salue.
Alors évidemment aujourd'hui nous lui souhaitons d'abord une santé meilleure, un bon rétablissement et un grand merci, cher Michel Plisson. Alors, nous commençons cette émission consacrée à Michel Plisson et à son ouvrage « Tango du noir au blanc » publié il y a maintenant plus de 25 ans.
Tout à fait, Cité de la musique, Actes Sud, vous pouvez le trouver sans aucun problème sur Internet et dans des bonnes librairies. Alors peut-être quelques mots d'abord sur Michel Plisson. Ce n'est pas un journaliste ou un simple passionné qui se met à écrire. Michel Plisson est un universitaire, un vrai scientifique de la musique, un chercheur.
Oui, alors Michel Plisson, c'est un ethnomusicologue de renom. Il est professeur en sciences sociales, membre de la Société française d'ethnomusicologie. Et son travail, c'est d'étudier finalement comment les sons racontent l'histoire des peuples. Il a passé des années à fouiller les archives, à écouter les rythmes de l'Amérique latine. Et son livre est une enquête sociologique et historique absolument passionnante, on va en parler, sur l'identité d'un peuple et sur l'identité de sa musique. Le tango.
C'est un petit livre avec des petites sections, ça peut se lire très facilement par morceaux, mais il y a une véritable densité d'informations et une très grande précision.
Alors, quand le livre de Michel Plisson paraît en 2001, ce Tango du noir au blanc, le tango est plutôt tombé en désuétude en Argentine. Il est connu par la musique, par des tournées de compagnies qu'on peut qualifier quand même d'assez folkloriques avec des guillemets. Il est assimilé à l'image d'une musique qui est une danse raffinée, sensuelle, nostalgique. Enfin, vous voyez le tableau, un homme en costume élégant, éventuellement un chapeau, toujours tiré à quatre épingles, et puis une femme avec la robe fendue.
Bon, voilà que des clichés.
Oui, et alors à mettre les pieds dans le plat, disons-le clairement, ces deux danseurs sont de type européen.
Vous voulez dire blanc et plutôt argentin.
Alors, c'est bien ça. Ils sont argentins, d'une Argentine qui s'est rêvée blanche. Effectivement, le cliché, ce sont deux danseurs toujours blancs et européens. Et c'est ça l'imaginaire que projette le tango au début de ces années 2000. C'est celui d'une Argentine, d'un pays argentin blanc, raffiné, parisien.
Oui, et ce sont précisément ces clichés que prend Michel Plisson et qu'il va briser. Hein.
Alors oui, ou plus précisément qu'il va détricoter, pour nous montrer à quel point cette vision qu'on a à cette époque du tango, qu'on a peut-être encore un peu aujourd'hui, c'est une construction. C'est la construction d'une histoire et d'une société, et pas seulement d'une musique ou d'une danse. Alors il reprend l'histoire, l'histoire factuelle, il va chercher des éléments factuels, et le mérite de Michel Plisson, c'est d'être allé écouter, retrouver cette histoire oubliée, pas seulement oubliée d'ailleurs, une histoire qui a été dissimulée, effacée, et il le fait pour reconstituer ce parcours qui part du noir, on va y revenir, et qui arrive au blanc, justement. Hein, on va parler beaucoup de couleurs. Et c'est ce que dit très simplement le titre de son livre, l'histoire d'un tango qui va du noir au blanc.
Alors, Tango du noir au blanc, cet ouvrage montre comment cette culture, musique, danse, poésie, qui est devenue symbole de raffinement, est née dans la boue, la sueur, et surtout dans l'héritage africain totalement oublié de l'Argentine.
Oui, hein.
Un tango africain, en tout cas, c'est tellement loin de l'imaginaire qu'on en a encore, et plus encore qu'on en avait en 2000 au moment où sort cet ouvrage.
Hein. Eh ben oui, en 2000, il y en a quelques-uns qui ont dû s'étrangler, parce que Michel Plisson, il nous parle d'un tango, on va le dire, un tango afro, un tango négro. Hein, c'est le tango et aussi négro, voilà ce que nous dit Plisson. Et les racistes de tout poil ont dû être bien dépités dans cette histoire.
Oui, tant mieux, il faut leur tordre le cou, tordre le cou aux clichés bien sûr, et non pas aux racistes. On a autre chose à faire.
Pour illustrer cette introduction au travail de Michel Plisson, ce qu'on vous propose, c'est maintenant d'écouter une chanson, j'en ai parlé, de Juan Carlos Cáceres. C'est un Argentin, c'est un historien de l'art au départ et musicien, qui lui aussi a travaillé sur les racines noires du tango, à peu près dans les mêmes époques. Et cette chanson, c'est une milonga, alors c'est tango negro, oui, tout à fait. C'est une milonga, ou plus exactement, c'est un candombe,
oui.
un des rythmes argentins, on en a déjà parlé. C'est un rythme qui est d'origine africaine et qui est à l'origine du tango. Ce sont les esclaves qui avaient été amenés en Amérique du Sud, qui étaient installés dans ce Rio de la Plata, qui avaient développé cette culture et ces types de musique, les candombes, avec des tambours notamment, qui étaient extrêmement importants. Et surtout, cette chanson, elle parle de cette histoire, des origines noires du tango. Et donc, ce que je propose, c'est qu'avant de l'écouter, on en lise quand même quelques paroles.
Peut-être d'abord en espagnol, hein. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candumes en el bar de Montserrat.
Alors, traduisons. Tango noir, tu es parti sans prévenir, les gringos ont fini par changer ta manière de danser. Tango noir, le maître est parti par la mer, les condombés se sont tus dans le bar de Montserrat. Plus tard, ils ont commencé à sortir en troupe pour le carnaval, mais le rite a fini par se perdre à la mort de Balthazar. Ce que raconte la Cáceres sont des faits historiques. Alors ce que je vous propose, c'est d'entendre ce tango negro, c'est une version de 1998.
Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachás. mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, cha cha. Borocoto, 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 cha cha. Borocoto, 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 cha cha. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morir se Baltasar. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congos y mina repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, 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 chachas. Borocoto, 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 chachas.
De retour sur l'antenne d'Aligre FM 93.1, émission au cœur du tango, et nous écoutions Juan Carlos Cáceres, Tango Negro, la version de 1998. Bon, les danseurs et danseuses connaissent bien ce morceau. Hein.
Connaissent bien, et pourtant, ça n'est pas une milonga, ça n'est pas un tango.
Et ouais.
C'est vraiment un candombé particulièrement complexe à danser avec
oui.
le guidage du tango en réalité.
Tout à fait, oui, oui.
Alors revenons un peu à notre tango du noir au blanc.
L'ouvrage de Michel Plisson.
Alors nous le disions finalement, du noir au blanc c'est un double sens. C'est d'abord un sens littéral et c'est quelque chose qu'on sait peu, mais au début du 19e siècle, près d'un tiers de la population de Buenos Aires était noire.
Oui.
Près d'un tiers, je crois qu'on a du mal à imaginer.
Oui, c'est énorme.
Aujourd'hui, on se promène en Argentine, on a 1, peut-être 3%, on est dans un pays européen, on a 1% de la population à peu près qui est comptabilisée noire. Alors le tango vient de là, des tangos, et c'est ce que relève Michel Plisson, ces lieux de réunion. Alors l'origine du nom est assez débattue, mais lui note bien dans les archives que c'était les tangos, ces lieux de réunion où les esclaves dansaient le candombe.
Candombe, hein.
Candombe.
Oui, candombe.
Alors... Ensuite, du noir au blanc, c'est aussi un sens symbolique. Ce que nous dit Plisson, c'est que finalement, comment l'Argentine a voulu blanchir sa culture pour ressembler justement à l'Europe qu'elle désirait approcher. Alors, on a caché les tambours, on a lissé la danse, on a transformé une pulsion africaine en une forme mélancolique européenne.
Oui, Michel Plisson soulève une pierre que beaucoup ont préféré ignorer. Le tango est né noir.
Alors, comme je le disais, un des mérites de Plisson, c'est d'être allé chercher dans les nombreuses origines du mot tango. Et Michel Plisson relève qu'au 19e siècle, à Buenos Aires, on appelle tango non pas une danse, mais un lieu. Hein, c'est l'endroit où les esclaves se réunissent pour danser le candombe au son des tambours. Et à l'époque, la ville résonne de ses percussions. Alors, ce que je vous propose, chère Nathalie, c'est de lire un petit extrait du livre de Michel Plisson, qui parle justement de ces lieux de danse.
Oui, alors tout à fait, je cherche le passage. Et je veux bien votre aide, Sylvain Berthaud. Voilà. À Montevideo, en 1806, la municipalité s'énerve contre les tambos bailes de negros. Tangos de negros. Los negros con el tango. Et aussi en 1816 et à plusieurs reprises. Se prohíban dentro de la ciudad los bailes conocidos por el nombre de tangos. On donne aussi candombe, proche de tango. Chaque nation avait son terrain pour jouer le tango. Les Congo, Mozambique, Bengalas se donnent à fond au candombe avec leur kalunga, kenge et lumba. Candombe toujours pratiqué en Uruguay durant la période du carnaval.
Voilà, vrai travail de citation hein, de Michel Plisson. Il est toujours passionnant à lire. Ce qui nous explique ensuite, c'est qu'effectivement le rythme du tango, hein, ce balancement donc, qu'on croit venir d'Europe, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est en réalité une version ralentie, stylisée de ces danses rituelles des esclaves qui étaient fortement présents en Argentine à cette époque.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé finalement?
Qu'est-ce qui s'est passé? On avait 30% de la population qui était noire. En fait, l'Argentine a subi un véritable blanchiment. Un grand remplacement, pour prendre une expression.
Une belle histoire en France, là, récente.
Alors, entre les guerres et les épidémies, la population noire a été décimée. L'élite politique a voulu aussi effacer cette trace pour faire de l'Argentine et surtout de Buenos Aires une Paris reconstituée en Amérique du Sud.
Oui.
Une deuxième Paris. Le tambour a été interdit, jugé trop sauvage. Et donc, je vous le disais, imaginez que les statistiques d'aujourd'hui disent que moins de 1% de la population est noire aujourd'hui en Argentine. C'est bien moins qu'au Brésil, par exemple. Si on se promène au Brésil, on n'a pas du tout la même sensation. Alors, peut-être de lire un petit extrait sur justement ce blanchiment des statistiques et de la population réelle, parce qu'il n'y a pas que les statistiques qui ont été blanchies.
Tout à fait. Alors, l'utilisation de vieilles catégories statistiques basées sur la couleur de la peau en usage dans l'Espagne féodale du XVIIIe siècle permit de faire entrer les Noirs et les Métis dans des catégories qui minoraient, voire gommaient, le métissage indien et surtout l'ascendance africaine. À côté, des mestizo, negro, negrofulo, mulatto, pardo, moreno, morocho, zambo, on trouva des aindiado, bruno, entre blanco, algo blanco et trigueño. Le terme trigueño apparaît dans les registres de recensement jusqu'en 1850. Ce terme permettait en partie d'occulter les origines noires, notamment de ceux qui possédaient une certaine place ou fortune dans l'échelle sociale. Beaucoup de blancs basanés pouvaient également entrer dans cette catégorie. Je poursuis, le métissage était nié dans la société porteigne. Pourtant, de nombreux porteños avaient du sang noir, jusqu'à Rivadavia, surnommé Dr Chocolate. Avant même que les Noirs ne disparaissent, les statistiques les avaient déjà en partie blanchis, transformant par exemple les pardos morenos à peau claire en blancos. C'est sublime, hein. Je lisais la page 26-27 de l'ouvrage de Michel Plisson, Tango du noir au blanc.
Il y avait un passage sur les causes de disparition des Noirs en Argentine.
Tout à fait.
Je vais peut-être le lire.
Comme ça, on s'échange la parole.
Voilà, il avance quand même et c'est très intéressant. 5 causes sont généralement avancées. La baisse du commerce d'esclaves, le fort taux de mortalité, notamment infantile, les mauvaises conditions sociales, les métissages, les femmes cherchant l'union sexuelle avec les blancs pour faciliter la mobilité et l'ascension sociale. Enfin, les guerres intestines qui se déroulèrent en Argentine au XXe siècle. Alors, et il évoque aussi évidemment la période de la dictature avec Juan Manuel de Rosas, le dictateur. On va l'entendre dans la chanson que nous vous proposons maintenant d'écouter. Toca Tango, on reparle toujours de Cáceres.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est une chanson de 2000 où, justement, on évoque toute cette disparition sociale des Noirs dans l'Argentine du 19e siècle. Je pense notamment au dernier couplet de cette chanson que je vais traduire. Le noir frappait le cuir pour oublier ses peines ou rire de son sort. En dansant le condombé sans problème, le noir connut sa gloire. Quand vint Juan Manuel, donc le fameux dictateur Juan Manuel de Rosas, mais cela dura très peu, car en fait, Juan Manuel de Rosas va utiliser et soutenir les Noirs pour favoriser son pouvoir, mais comme le dit Cáceres, car tout s'en alla avec lui. Alors je vous propose d'écouter ce Toca Tango, toujours de Juan Carlos Cáceres, on est cette fois en 2000.
Dice lo negro con el tambor, toca tango, viene Mandinga, viva Xangó. En retiro lo marcaban para llevarlo al Potosí, y así mismo iban quedando con su mancha carmesí. Por Córdoba y Tucumán iban todos a sufrir, hacia el norte lo llevaban a las minas a morir.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó. En Buenos Aires se quedaban para el servicio o a pedir. Buen oficio denigrantes iban muchos sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra los mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. Dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Tocaba el cuero para olvidarse de sus penas o reírse de su suerte, candombeando sin problemas. El negro tuvo su gloria cuando vino Juan Manuel, pero le duró muy poco porque todo se fue con él.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor.
Toca tango,
viene Mandinga, viva Xangó.
Toca tango,
dicen los negros con el tambor. Mandinga, viva Xangó.
Toca tango, toca tango. Toca tango, toca tango. Toca tango, toca
tango. Voilà, nous écoutions Juan Carlos Cáceres, Toca Tango 2000. Alors, on était en train de montrer à quel point le tango est passé du noir au blanc. Alors maintenant, imaginez le décor. Et c'est Michel Plisson qui nous aide à planter le décor. Buenos Aires devient le port où débarquent des millions d'Européens, des Italiens, des Espagnols, des Juifs polonais. Ils arrivent seuls et ils s'entassent dans des conventijos, des pensions misérables.
Oui, alors c'est ici que Michel Plisson, justement, décrit la naissance du tango criollo, le tango qui naît sur place dans ces terres-là d'Argentine, du Rio de la Plata. Et ces immigrés qui arrivent, ils ont un point commun avec les descendants d'esclaves, la misère, l'exil. Le tango, finalement, devient leur langue commune. C'est là qu'apparaît un instrument emblématique, le bandoneon. Michel Plisson raconte le chemin de ce bandoneon, on en reparlera dans d'autres émissions. C'est un instrument qui est inventé en Allemagne pour remplacer l'orgue au départ, dans les églises pauvres.
Oui.
Donc quand on n'avait pas les moyens, eh bien, c'était l'instrument sacré qui venait en remplacement de l'orgue. Il arrive évidemment en Argentine par le bateau de l'immigration, peut-être avec un émigrant, plus probablement avec d'autres machines et productions allemandes. Hein, l'Allemagne était une grande nation industrielle qui produisait beaucoup de machines, d'outils. Donc vous imaginez, dans une caisse avec des armes et une charrue, sans doute un jour s'est glissé un banc de néon.
Voilà, tout à fait. Alors l'exemple qui parlera peut-être à nos auditrices et auditeurs, c'est le catalogue Manu France, hein, la manufacture de Saint-Étienne a été créée en 1911. Alors vous le disiez à l'instant Sylvain Berthaud, on reparlera dans une émission prochaine du bandoneon, cet instrument incroyable de complexité, et on reparlera aussi de son histoire. Le bandoneon va donner au tango sa respiration. Il apporte cette plainte et ce côté sacré, vous le disiez à l'instant, et tragique qui va remplacer l'énergie joyeuse des tambours, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Alors, l'exemple de Manu France, il est très bien, hein, c'est-à-dire il illustre très bien cette idée que peut-être un immigrant qui s'installe en Argentine consulte un catalogue allemand et fait venir des machines et pour égayer ses soirées, commande aussi un bandoneon. C'est peut-être arrivé aussi comme ça. Nous en reparlerons certainement dans de prochaines émissions. Alors c'est aussi, et c'est Michel Plisson qui nous le raconte, c'est aussi l'époque des grandes figures emblématiques du tango, notamment l'époque du compadrito.
Oui.
Alors parmi tous les personnages emblématiques du tango, Michel Plisson souligne l'importance de ce compadrito, ce voyou de banlieue de l'époque. Ce voyou justement, il imite la marche des Noirs. Il imite la marche des Noirs, mais avec arrogance, il porte un couteau à la ceinture, il danse avec une tension extrême. Le tango, à cette époque, c'est jugé obscène par la bonne société. Pourquoi ? Parce que on se touche, parce que les corps s'emboîtent. Alors je vous propose de lire un petit passage encore de l'ouvrage de Michel Plisson.
Oui, tout à fait. La milonga est née dans les faubourgs de la ville, là où le compadrito, souvent ancien gaucho, personnage déclassé et métis lui-même, côtoie les Noirs, non par choix mais par nécessité. La proximité sociale, le rejet, le pousse à la dérision. Il imite les pas des Noirs, leur façon d'enlacer leurs partenaires, alors que les danses criollas ou de salon condamnent cette proximité. Il cherche à ridiculiser les Noirs qu'il méprise tout en les imitant, mais sans tenter ni pouvoir reproduire leur danse. De leur côté, les Noirs empruntent de leurs anciens maîtres les danses de couple que la tradition africaine ignore. Les danses de salon européennes comme la mazurka, la polka, se déforment à leur contact, car les Noirs les investissent d'éléments culturels qui sont étrangers à ces danses. Le compadrito reprend des Noirs ses formules nouvelles, sans se rendre compte qu'en se moquant des Noirs, il invente dans la danse des pas nouveaux. J'en finis
ouais, là. C'est magnifique, non mais vous pouvez continuer.
Voilà, alors on poursuit avec grand plaisir. Issu des figures du candombé, c'est dans les bas-fonds et les bordels que cette alchimie se produit. Tous les témoignages du début du XXe siècle donnent tango et milonga comme danse liée au prostibulos.
Oui, les bordels, hein, c'est voilà, comme il le cite. Et on le danse dans les bordels, parce que, non pas parce que c'est une danse de la prostitution, mais parce que c'est un endroit où les classes sociales se mélangent. Et donc c'est ce que décrit très très bien Michel Plisson dans le passage que vous venez de lire,
oui.
C'est ce métissage qui est vraiment à l'origine de la danse.
Page 56-57, je précise.
Alors, puisqu'on vient d'évoquer la figure de ce compadrito et que nous avançons dans l'histoire du tango, on va évidemment se faire plaisir, on va écouter le grand Carlos Gardel,
oui.
qui est connu pour avoir chanté ses personnages, et notamment le portrait psychologique d'un compadrito. Ce compadrito, dans Bailarin Compadrito, il a été le roi des bals, il était dans la vanité de son style, de sa façon de marcher. Il avait une vie de bravache. Et puis le temps passe, il fonde une académie de danse, compadrito, et il devient un bourgeois. Voilà, on est en 1929. Carlos Gardel est accompagné à la guitare par Barbieri et il chante Bailarin Compadrito.
Vestido como un dandy, peinado a la gominga, y dueño de una mina más linda que una flor. bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo la elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, charreo de otros días, que un día llegaría a rey del cabaret, que pa' enseñar tus cortes pondrías academia, al Taura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín con podrido, que floreaste tus cortes primero, en el viejo bailón bolillero de Barracas al Sur. Bailarín colpadito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas en Chumbacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadito del tiempo que se fue, pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín con padrino, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de Barracas al Sur. Bailarín con padrino, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Voilà, le grand Carlos Gardel sur Aligre FM au cœur du tango. Bailarín compadrito 1929, hein, cette petite frappe qui est devenue un grand bourgeois, mais toujours en dansant. Voilà, magnifique.
Oui,
hein.
C'est superbe. Vous avez entendu dans les paroles, hein, quand il dit « Attention, quand parfois tu entends la comparsita, je sais comment bat ton cœur en te souvenant qu'un jour... » tu la dansais avec un foulard, oui, et sans un sou. Et qu'aujourd'hui, le même tango, tu le danses en grand bourgeois. Mais tu donnerais tout pour être, juste un petit instant, le même compadrito du temps qui s'en est allé. Car tant de gloire fatigue et un peu triste et vieux, tu te vois dans le miroir du vieux cabaret. C'est la fin de la chanson.
C'est magnifique. Ce que chante Gardel, c'est cette époque des voyous, des compadritos, hein, qui ont élaboré cette danse. Mais c'est aussi quelques années plus tard devenue l'époque des académies, d'une danse respectable, d'une danse de bourgeois. Une grande chanson, très très belle, qu'on n'entend pas assez encore en bal. Hein.
C'est vrai. Alors cette chanson, c'est la nostalgie d'une époque qui est finalement déjà passée. En 1929, elle est bien oubliée, la racine noire du tango dont on vient de parler, ce tango afro. Et même le métissage des bas-fonds qu'on vient d'évoquer, ce métissage des banlieues, est déjà devenu un mythe.
Oui, alors comment est-ce possible? Comment le tango évolue-t-il aussi vite dans et avec la société argentine?
Eh bien, on arrive à un paradoxe incroyable, que Plisson analyse très très bien, hein. C'est pour être accepté en Argentine, le tango a dû d'abord conquérir Paris. Alors vers 1910, des fils de bonne famille argentine vont s'encanailler dans les bas-fonds de Buenos Aires, dans les banlieues. Ils apprennent à danser le tango et puis naturellement, ils partent en voyage. Ils vont voyager en Europe et ils exportent la danse à Paris.
Et là, c'est l'explosion, la tangomanie saisit la capitale française. On en a plusieurs fois parlé d'ailleurs dans cette émission.
Bah oui, mais attention, le tango de Paris, il est propre. Ce tango qui se développe à Paris, il est poli, il est lissé, il est nettoyé. On enlève tout ce qui dérange, tout ce qui est trop sale, trop agressif. Finalement, on est passé définitivement du noir au blanc.
Tout à fait. Une fois que Paris a validé le tango, la bourgeoisie de Buenos Aires n'a plus honte. Elle l'adopte, le tango, ce tango-là. L'époque de l'âge d'or du tango va pouvoir survenir avec ses grands bals populaires où la mixité sociale impose une codification des usages pour être pleinement respectable. Et surtout, c'est l'arrivée d'une icône qu'on a entendue, Carlos Gardel. Avant lui, le tango se dansait avec lui. Il s'écoute et Gardel met des mots sur la musique. Il chante la nostalgie du quartier, la trahison amoureuse, le regret de la mère, etc.
Et avec la création de cette musique et de cette danse, ce que souligne aussi très bien Michel Plisson, c'est qu'il y a la création d'une langue, le lunfardo, parler finalement, que certains peuvent comprendre et d'autres non, mais qui s'intègre dans la littérature, la poésie, la culture du tango. Et je voudrais d'abord vous lire un tout petit passage. Il en dit « C'est précisément ce qui plut aux gens ». C'est-à-dire que ça reste incompréhensible pour une partie de la population. C'est précisément ce qui plut aux gens. Il flottait comme un parfum de mystère autour des paroles qui décrivaient un univers inconnu des classes moyennes. Et donc, je vous propose de lire ce petit passage sur Ciruja.
Alors, dans Ciruja, chiffonnier, composé en 1926, les trois quarts des mots sont du lunfardo. Ce tango reprend le thème classique de la maîtresse, de la guape, qui redonne l'argent de ce dernier à son maquereau. Le guapo, chiffonnier, règle l'affaire au couteau et se souvient, après les années de prison, de sa jeunesse et de son amour envolé. Recordaba aquellas de garrufa cuando minga de laburo se pasaba. Il se souvenait de ses nuits de bringue quand il manquait de boulot. Metapunga al codillo escolaseaba. Y en los burros se ligaba un metejón. Quand il trichait aux cartes pour de l'argent, quant aux courses, il rencontrait le coup de foudre. Alors, c'est magnifique ce passage, page 94 du livre Tango du noir au blanc de Plisson.
Sur un tango méconnu, effectivement, mais bourré de lunfardo. Finalement, ce que nous montre Plisson, c'est comment le tango a cheminé pour devenir une véritable culture populaire. On ne parle plus des rythmes africains, on parle maintenant de poésie existentielle.
Oui.
Avec Gardel, le tango est devenu une institution, une fierté nationale. Il a perdu au passage la marque de ses origines noires, pour gagner une âme mélancolique qui va finalement toucher l'universel et qui va aboutir à ce phénomène incroyable de la mondialisation du tango.
Tout à fait. Alors on va écouter.
Oh bah on va écouter Carlos Gardel.
On est en 1926.
Con bronca circulando, cerrado de ojo a un costado, tus pasos he caminado, derecho para robar. Lo llevo al presentimiento de que en aquel potrerito resiste ya el bulincito. Que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de la rumba, cuando minga de laburo se pasaba, me tapungía al codillo con la fiaba, y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no era tan funado por la tira, la lanceaba sin tener el pensamiento, y una mina le solfiaba con vento, y jugó con su pasión. Era una paica pajosa, que jugaba de quemera, hija de una curandera, mechera de profesión, pero vivía en grupita de un cafiolo vidalita y le pasaba la guita que le chacaba al mano. frente a frente dando muestras de coraje. Los dos guapos se trenzaron en el bajo y el cirujano era listo para el tajo. Al capiolo le cobró caro su amor. Hoy está libre en la gallola y sin la mina, campaneando un tachetón en la vereda. Piensa un rato en el amor de la gemela y sus otras dolor. Como con bronca y jurado, cerrado de un bautizado, sus pasos ha encaminado, derecho para ramar. Lo lleva el presentimiento, desde que en aquel potrerío no existe ya el burillo, que fue su único idea.
Voilà, mais j'espère que vous prenez autant de plaisir sur cette émission Au cœur du tango et sur Aligre FM à 93.1. Un plaisir à écouter Carlos Gardel et Ciruja de 1926. Alors pour conclure cette histoire du tango, autour du livre du tango, Tango du noir au blanc de Michel Plisson, Plisson nous emmène vers la modernité, incarnée par un nom, celui d'Astor Piazzolla.
Oui, ça peut peut-être vous surprendre. Plisson ne s'attarde pas sur les années de l'âge d'or. Il dit, dans les années 50, finalement, le tango est à ses sommets, mais déjà, ça ronronne. Tout tourne, tout, voilà. Et puis, il y a un grand virage dans les années 60. Il y a la déferlante du rock. Et puis, on en a parlé aussi en raison du conservatisme du régime politique nouveau en Argentine. Voilà, le tango est mis de côté et devient une musique de musée, finalement. Alors, je vais citer Michel Plisson, c'est page 125. Peu à peu, le tango, comme phénomène de masse, ira en s'amenuisant, obligeant la musique et la danse à de profonds changements. Une nouvelle période s'ouvre alors pour le tango. Et ce qu'il décrit, Michel Plisson, c'est que les grands ensembles se désagrègent, que la danse tombe en désuétude, et que par ailleurs, de petits groupes de musiciens se mettent à jouer différemment. Je le cite encore, il écrit « La réduction de l'orchestre à 3 ou 4 membres incite chaque personnalité à s'extérioriser davantage dans un rôle de demi-soliste. Poussé par la force des choses, le tango effectue une mue. »
Alors c'est l'époque que peut bien représenter quelqu'un comme Horacio Salgan, oui, que Plisson prend en exemple. Et on fera forcément évidemment une émission sur Salgan.
Parce qu'on adore Salgan. Oui. Mais venons à Piazzolla. Effectivement, il y a tout un chapitre dans l'ouvrage de Michel Plisson sur Salgan qui décrit justement ce rôle de plus en plus prégnant chez les musiciens qui se mettent de plus en plus en avant parce que la taille des formations diminue. Alors, ce que dit Michel Plisson de Piazzolla, on est page 135, il dit « Piazzolla vient bouleverser l'ordre tranquille du monde tanguero, la classification des orchestres de tango entre deux courants, traditionnels et non traditionnels, perd son sens devant cette nouvelle esthétique qui prend forme avec les conjuntos des années 50. Cette rupture s'annonce aussi avec Salgan et Rovira, mais c'est Piazzolla qui ira le plus loin dans cette voie, sans doute parce que, ayant vécu une grande partie de sa vie à l'étranger, il en a reçu des influences extérieures décisives. Alors effectivement, Piazzolla, il arrive et il casse tout. Il intègre du jazz, il intègre de la musique classique contemporaine, il se met à jouer du bandoneon debout, comme s'il tenait une guitare de rock.
Oui,
c'est
tout
un
à
peu,
fait.
Voilà, donc c'est un phénomène. Plisson écrit que Piazzolla démontre, alors je le cite, ce qu'il ne cessera de défendre toute sa vie durant, que le tango n'a pas besoin ni de la chanson ni de la danse pour exister, que toutes les formes et techniques musicales peuvent lui être appliquées, fugue, contrepoint, cadence, improvisation, que le tango est libre de son harmonie et de ses mélodies et qu'il est une musique à part entière.
Alors les puristes crient au scandale, on le menace même physiquement hein, dans les rues de Buenos Aires, Piazzolla, car on l'accuse de tuer le tango.
Eh oui, c'est ce qu'on va reprocher effectivement à Piazzolla. Et Plisson, il défend une thèse exactement inverse. Ce qu'écrit Plisson, je le cite encore, et c'est extrêmement important, hein, c'est très novateur pour l'époque. À l'inverse des détracteurs qui pensent encore que sa musique n'est pas du tango, nous affirmons au contraire qu'il a sauvé le tango d'une mort certaine, car il lui a donné l'habillage musical moderne dont il avait besoin pour continuer son histoire.
Tout à fait, c'est une thèse très forte à l'époque, et il continue. Hein. Alors je cite, « Par ailleurs, en se produisant dans le monde entier, en écrivant des centaines d'œuvres pour des formations très diverses, tant classique que populaire, Piazzolla a fait découvrir le tango au monde entier, qui ensuite a pu redécouvrir le tango plus ancien. Piazzolla aura pour le moins contribué à réconcilier le tango avec les nouvelles musiques et les nouvelles générations. » Je partage entièrement, moi, à titre personnel, cette thèse.
Alors, on est 26 ans plus tard, c'est peut-être plus facile maintenant de le dire. Dans le contexte, moi j'ai bien le souvenir de cette période du tout début du 21e siècle.
Oui.
On était en 2000. Et ce que Michel Plisson écrit, il l'écrit quelques années seulement après la mort d'Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, il est mort en 1992. Le livre de Plisson est publié en 2001.
Oui.
Et ce qu'il écrit, c'est que Piazzolla a permis cette régénération de la culture du tango. Dans les années 90, à Paris, on va avoir le phénomène des trottoirs de Buenos Aires. On va aussi voir commencer l'universalisation, la mondialisation de cette culture et de sa danse.
Oui, inévitablement, on va écouter évidemment Piazzolla. un choix difficile comme toujours, bon. Mais alors, on a choisi ensemble un extrait de la suite de l'ange, hein, la Milonga de l'Angel. Très très belle.
Ouais,
hein.
Alors elle est sublime, mais bon, si on choisit un morceau de Piazzolla, ils sont tous sublimes quasiment.
Oui.
Alors c'est en fait pourquoi on l'a choisi d'abord, parce que c'est effectivement une milonga. C'est une milonga des origines. Elle est simplement jouée avec un tempo qui est extrêmement lent. Et ça, c'est superbe. D'un point de vue de la composition, on retrouve les traits caractéristiques de Piazzolla. Deux thèmes, un qui va être exposé d'abord par le bandoneon, le second par le violon, et avec des arrangements harmoniques qui sont sublimes. Le plus dur, ça va être d'arrêter cette musique, parce qu'elle est longue, on sera obligé de faire un tapis. On est en 1986, Milonga del Angel.
Thank you.
Voilà, nous vous l'avions annoncé, un joli tapis fait par Romain Gury aujourd'hui, Armand Gury, pardon, à la technique aujourd'hui avec nous. Alors, Astor Piazzolla, on écoutait Milonga de l'Angel 1986. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Que retenir de ce magnifique livre, notre autre Bible avec le dictionnaire passionné du tango, ce livre splendide de Michel Plisson, Tango du noir au blanc.
Et que retenir? Sans doute d'abord que le tango méritait et mérite encore un travail sérieux d'universitaire, de chercheur, de scientifique. C'est une réflexion qui reste importante aujourd'hui, parce que Michel Plisson, finalement, il démontre que le tango, c'est un grand métissage mondial réussi.
Oui, le premier peut-être. Mélange entre le rythme des esclaves noirs, la nostalgie des immigrés italiens et la solitude des gauchos de la Pampa. Hein.
C'est vrai, c'est bien dit. Ce qu'il nous explique, c'est que le tango, ça n'est pas une tradition figée. La culture du tango, c'est finalement un organisme vivant qui a dû changer de couleur pour survivre. Alors, à travers ce livre, on ne découvre pas seulement une musique, une danse, une littérature. On découvre comment se construit et se déconstruit une identité culturelle. Alors, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a le regard d'un ethnomusicologue, et ça me paraît important. C'est quelqu'un qui réfléchit à la façon d'aborder, de considérer la musique de l'autre, de l'étranger,
oui,
en étant aussi conscient de ses propres limitations, de sa propre culture. Par exemple, sur la difficulté à entendre, à fixer une musique qui s'est transmise d'abord à l'oral, une musique qui s'est apprise à la feuille entre musiciens, c'est-à-dire à l'oreille. Le regard de Michel Plisson dans ce livre, son écoute, ça n'est pas le regard d'un Européen en surplomb avec sa culture classique et ses notations. C'est le regard d'un homme curieux et ouvert.
Voilà pourquoi, plus de 20 ans après sa parution, cet ouvrage demeure un de nos livres de référence, hein, vous l'aurez compris.
Et c'est pourquoi nous tenions à faire cette émission, pour remercier son auteur. Alors, même si Michel Plisson n'a pas pu être parmi nous dans ce studio, il est bien avec nous de cœur. Nous lui disons un grand merci, cher Michel Plisson. Pour nous quitter en musique, je vous propose d'écouter encore un morceau de Juan Carlos Cáceres que j'aime particulièrement, c'est la Retirada. C'est un morceau de 2005, une évocation nostalgique probablement de cette phase de l'exil au moment de la guerre d'Espagne. Voilà, avec un rythme qui n'est jamais oublié.
Et quelques petites secondes pour remercier Armand Gury à la technique, l'ensemble des programmes d'Aligre FM 93.1 que je vous conseille d'aller voir. Allez voir nos podcasts, écouter toutes les animations qui se passent sur notre magnifique radio.
Et on écoute la Retirada.
Thank you. écoutez Aligre FM 93.1.